Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Jean-Luc Romero-Michel, adjoint à la maire de Paris, président d'honneur de l'association pour le droit à mourir dans la dignité. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, le 13 septembre, le Comité consultatif national d'éthique a rendu son rapport sur la fin de vie, un rapport qui ouvre la voie à la légalisation de l'euthanasie. Cela fait des années que vous appelez les différents gouvernements français à changer la loi pour permettre aux personnes qui le souhaitent de pouvoir abréger leur souffrance et mourir dans la dignité. C'est aussi le combat mené par votre amie Lynn Renaud. Elle a dit qu'elle avait réussi à convaincre le président de la République. Avez-vous le sentiment que le président Macron est prêt à aller jusqu'au bout et à modifier la loi pour autoriser l'euthanasie ?
Alors, c'est vrai que je ne lis pas dans une boule de cristal, mais j'ai quand même l'impression que cette fois-ci, d'abord, les planètes sont alignées pour qu'on ait enfin une loi qui permette à chacun de choisir ce qu'il souhaite pour sa fin de vie. Moi, j'ai aussi l'occasion de parler avec le président de la République il y a une quinzaine de jours. J'ai vu le ministre de la Santé lundi dernier je pense qu'aujourd'hui, ils sont convaincus qu'il faut une loi qui, je le rappelle, une loi, c'est une loi de liberté, c'est-à-dire qui donne des nouveaux droits, qui n'enlève rien à personne et qui surtout garantit le choix de chacun. Aujourd'hui, on est quand même dans une situation sur la fin de vie en France qui est quand même assez paradoxale. Il n'y a pas les moyens qu'il faut pour les soins palliatifs. À peine 20% des gens peuvent aller dans une unité de soins palliatifs. Et puis de l'autre côté, on ne peut pas, pour des gens qui ont des souffrances insupportables et qui le souhaitent, les laisser partir, les laisser éteindre la lumière. Donc on voit bien que les politiques sont peut-être enfin arrivées à une certaine sagesse, c'est-à-dire donner un droit qui permet à chacun d'éteindre la lumière et qui n'oblige personne à rien.
Jean-Luc Romero-Michel, ce combat, vous le portez depuis des années. Vous avez rencontré des dizaines de personnes qui étaient directement concernées par cette question. Qu'est-ce qui vous a amené à être favorable à la légalisation de l'euthanasie ? Est-ce qu'il y a eu un déclic, une prise de conscience que vous pourriez nous raconter ?
Vous savez, moi, jeune, j'ai été touché par le VIH et j'ai vu mourir un nombre de mes amis à 20 ans, 25 ans. Des amis qui n'en pouvaient plus de leur souffrance, à qui on faisait des opérations inutiles, qui suppliaient pour mourir, qui suppliaient d'ailleurs même pour avoir simplement de la morphine à l'époque, qu'on leur refusait en disant « ça va accélérer votre mort ». Et face au dogmatisme d'une partie du corps médical, qui est certes une minorité, mais qui était quand même celle-là, et voir des gens supplier pour mourir, comme je l'ai vu d'ailleurs pour ma mère aussi, qui est morte de la Covid et qui demandait à arrêter, face à ça, évidemment, vous ne pouvez que avoir envie de vous mobiliser parce que pour vous-même, vous n'avez pas envie qu'on vous oblige à supporter des souffrances. Et puis, je crois, globalement, pour la société, parce que vous savez, moi, je suis comme vous et comme tout le monde. Je ne sais pas ce que je voudrais à la fin. Je suis dans le doute. Et aujourd'hui, on nous donne pas la possibilité de pouvoir choisir ce qui sera le mieux en fonction de la situation dans laquelle on sera. Vous savez, il y a des maladies. Je pense à la maladie de Charcot ou d'autres, où vous pouvez terminer dans des conditions terribles. Sauf que on ne sait pas quelle est l'évolution, si ça va durer longtemps, moins longtemps. Et aujourd'hui, on pousse des gens à se suicider prématurément parce qu'ils ont très peur de cette fin de vie avec une maladie aussi violente ou à partir à l'étranger. Donc, vous voyez, une loi, ça va non seulement permettre de choisir, mais ça va aussi éviter des morts prématurées et puis aussi que des gens doivent partir à l'étranger parce que, vous savez, c'est quand même assez incroyable d'imaginer qu'une petite minorité de gens ont cette, et tant mieux pour eux, ceci dit, hein, ont cette possibilité d'aller en Suisse, d'aller en Belgique. Mais si vous voulez aller en Suisse, ben ça coûte 11, 12 000 euros. Eh bien, je suis désolé, tous les gens en fin de vie n'ont pas ça. Il y a plein de gens qui vivent de minimum vieillesse ou des jeunes qui, évidemment, n'ont pas ces moyens-là. Et je pense qu'aussi, dans notre société, il faut qu'on arrête cette hypocrisie d'accepter au final que ceux qui ont les moyens puissent partir comme ils le souhaitent et puis que l'immense majorité des Français qui n'ont pas ces relations, qui n'ont pas cet argent, eux, doivent mourir dans des conditions qui parfois peuvent être atroces.
Jean-Luc Romero-Michel, que pensez-vous de la méthode utilisée par le chef de l'État proposée à une convention citoyenne de se pencher sur ce sujet ?
Alors, pour vous dire très simplement, une convention citoyenne, moi, j'y étais pas favorable parce qu'on a eu 50 rapports, on a eu tout ce depuis des années et des années. Maintenant, c'est la méthode qu'il a choisie. Il pense que ça peut apaiser les choses. Moi, je n'en suis pas persuadé. Quand on entend certains responsables religieux ou certains responsables des soins palliatifs, on peut en douter. Maintenant, voilà, qui est un débat, que chacun puisse s'exprimer. Et surtout, moi, je veux le dire à ceux qui ont des convictions religieuses, à celles et ceux qui sont médecins, rien ne vous sera imposé. Si vous êtes médecin, il y aura une clause de conscience si vous ne souhaitez pas accompagner. Alors que dans certains pays, d'ailleurs, on considère l'euthanasie ou le suicide assisté comme un soin palliatif. Vous aurez le droit de le refuser comme vous avez le droit de refuser un avortement. Et à ceux qui sont croyants, et qui pourtant, d'ailleurs, on l'a vu dans les sondages, que vous soyez musulmans, catholiques, etc., la majorité des croyants, ils sont favorables. Mais ceux qui ne veulent pas, parce qu'ils pensent que c'est incompatible avec leur religion, eh bien, ils seront respectés. Parce qu'en fait, cette loi, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, où c'est les gens qui sont autour du dit qui décident, où c'est souvent des médecins, et où il y a des gens qui sont aidés, qui n'ont rien demandé, là, ce sera votre décision avec cette loi-là. Et votre décision, et ce sera peut-être la mienne, d'ailleurs, c'est peut-être de vivre jusqu'au bout. Jusqu'à la dernière seconde, parce qu'à ce moment-là, vous avez envie de voir un petit enfant qui va naître, ou c'est vos convictions religieuses, ou vous avez une belle histoire d'amour et que vous voulez que vos souffrances physiques sont moins importantes que de vivre ces moments d'amour ou ce petit enfant. Et c'est pour ça qu'il faut que chacun comprenne que cette loi-là, en fait, c'est une loi pour tout le monde. C'est pas une loi sur l'euthanasie. Moi, je ne suis pas un militant de l'euthanasie. Je suis un militant de la liberté et du choix. Et parce que j'ai beaucoup de doutes, parce que je ne sais pas comment se passera ma propre mort, je veux pouvoir avoir tous les choix, c'est-à-dire des soins palliatifs qui soient accessibles par tout le monde. Ça ne va pas être une loterie comme c'est le cas en France aujourd'hui, ou une euthanasie et un suicide assisté si mes souffrances sont totalement insupportables et que je souhaite partir.
Comment souhaitez-vous que les débats aient lieu? C'est un sujet qui fait appel à des convictions personnelles qui transcendent les clivages politiques. On se rappelle des débats enflammés autour du mariage pour tous. Comment faire pour que les débats se déroulent de manière digne et constructive?
Ça va être tout l'enjeu. C'est pour ça que moi, je suis pas persuadé qu'un débat, un nouveau débat citoyen avec des réunions partout était la bonne chose à faire, puisqu'on l'a fait à plusieurs reprises. Mais je crois qu'aujourd'hui, d'abord, c'est vrai qu'il faut s'écouter. Parce que vous savez, je pense qu'il y a quand même un truc sur lequel tout le monde est d'accord. On s'occupe beaucoup du début de la vie, et c'est normal. On met beaucoup de moyens. Mais la fin de la vie, on est quand même des citoyennes et des citoyens. Et je pense que là-dessus, on peut faire consensus pour dire que la fin de vie, elle doit être traitée de la même manière que le début de la vie. Qu'on doit être respecté et qu'on doit mettre à la fois les moyens financiers et considérer que la question de la mort est une question importante. Et ça, là-dessus, si on arrive à avancer là-dessus, à faire comprendre à quel point cette question doit bien être traitée, parce qu'on doit pouvoir mourir dans des conditions dignes, eh bien, ça pourrait être une réussite, et j'espère que ce sera ça, et qu'on ne se focalisera pas sur des faux débats de dire on va tuer n'importe qui, etc., parce que, évidemment, une loi qui légaliserait l'euthanasie, c'est une loi qui poserait des conditions. Et vous savez, la loi, c'est fait pour quoi ? C'est fait pour protéger le plus faible. Le plus faible, c'est en l'occurrence celui qui est en fin de vie. Eh bien, on met des conditions. Il y a des médecins qui vérifient si vous êtes dans la situation de bénéficier de cette loi, que vous avez toute votre volonté, que vous n'êtes pas influencé par des héritiers qui voudraient récupérer vos biens. Et vous voyez, c'est pour ça que cette loi, c'est vraiment une loi pour tout le monde. Et si on arrive dans ce débat à le faire comprendre que cette loi, eh bien, c'est une loi qui va placer votre volonté au centre de toutes les décisions, eh bien, ce sera un débat utile, et puis qui l'aboutira. Moi, le président, j'avais été le premier à l'annoncer, puisque c'est lui qui me l'a dit il y a 15 jours, la loi, ce serait en 2023. Eh bien, il faut qu'il y ait cette loi, et je vous dis, une loi qui respecte chacune et chacun chacun d'entre nous, qui respecte les croyances religieuses. On est dans un état laïque, les religions sont reconnues, elles ne doivent pas s'imposer évidemment dans la loi, mais elles seront respectées et les médecins seront bien sûr totalement respectés dans leur conscience.
Jean-Luc Romero, Michel, des voix se sont exprimées pour s'opposer à une loi en disant que la loi Leonetti est suffisante. Certains disent qu'il faudrait d'abord l'évaluer, d'autres affirment qu'il faudrait l'appliquer réellement. La loi actuelle prévoit pour tous les patients atteints de maladies incurables la possibilité d'une sédation profonde et continue jusqu'à la mort. Est-ce que vous pouvez faire un peu de pédagogie et nous expliquer pourquoi pourquoi, selon vous, cette loi Leonetti ne répond pas à la souffrance et à la demande des personnes en fin de vie?
D'abord, contrairement à ce qu'on nous dit, il y a eu 3 lois Leonetti, ce qui prouve que ça fonctionne pas si bien, parce qu'on a dû revenir 3 fois, 2005, 2010, 2016. Et si le débat continue, et si des gens se crient souvent leur douleur de devoir mourir dans des conditions terribles, ou ont besoin de médiatiser leur départ à l'étranger, c'est que les choses ne fonctionnent pas si bien. Parce que la sédation profonde est continue, et c'est là la grande hypocrisie, c'est seulement pour les gens qui sont dans l'agonie, c'est-à-dire en gros dans les derniers jours. Et qu'est-ce qu'on fait? On vous endort, on arrête de vous alimenter, on arrête de vous hydrater, en gros on attend que vos reins soient atteints, on vous provoque une maladie. Alors si vous êtes très très vieux, il ne faut pas être caricatural, c'est une solution pour des gens qui vont mourir dans les 24 heures. Sauf que cette loi n'est pas encadrée, il y a des gens qui peuvent mettre 3 semaines à mourir. Et vous imaginez, avec des effets cliniques absolument terribles, et surtout les proches qui voient la personne maigrir et être dans des conditions absolument terribles. C'est pour ça qu'on voit bien que cette loi, qui est d'ailleurs hypocrite, parce que, vous savez, un médecin, quand il fait une sédation profonde et continue, c'est-à-dire qu'il endort une personne, elle va jamais se réveiller. Donc qui nous explique quelle est la différence avec ce qu'on demande. La seule différence, c'est qu'il ne sait pas quelle heure et quel jour elle va mourir. Donc il y a un moment, il faut, je crois, être logique, garder évidemment la sédation profonde et continue pour celles qui le souhaitent, mais qu'elle soit encadrée, qu'elle ne dure pas des semaines comme ça peut arriver, parce que vous voyez, c'est totalement dépendant du médecin. Si vous avez un médecin totalement compatissant, eh ben il va faire que la sédation va durer 24 heures. Et puis si vous avez d'autres médecins, eh ben ils vont laisser traîner. Donc il faut évidemment une autre loi et puis surtout une autre logique, parce que les 3 lois Leonetti, quel est leur principal défaut? C'est qu'elles s'occupent surtout des gens qui sont autour du lit, et qu'il faut enfin s'occuper de la personne d'abord qui est en fin de vie. C'est elle qui doit être au centre de la décision. Et à partir de ce moment-là, quand on aura fait une loi qui donnera des moyens aux soins palliatifs, qui respectera la volonté de la personne et qui permettra aussi l'euthanasie et le suicide assisté, eh bien on aura respecté tout le monde, on aura respecté d'abord ceux qui meurent, et on aura respecté leurs proches, on aura respecté ceux qui ont des convictions religieuses, et on aura respecté tous les médecins dans leur conscience.
Jean-Luc Romero, Michel, parmi les arguments utilisés par ceux qui s'opposent à l'euthanasie, il y a le risque de voir, par exemple, des personnes très âgées en situation de dépendance choisir de mourir prématurément pour ne plus être un poids pour leurs enfants. Des gériatres mettent en avant aussi la dépression vécue par les personnes âgées. Est-ce qu'une personne dépressive peut vraiment exprimer lucidement le désir de mourir, d'en finir?
Vous savez, il n'y a aucune loi, il n'y a aucun pays, contrairement à ce que parfois certains disent dans la désinformation, qui permettent à des gens qui sont déprimés d'obtenir un suicide assisté ou une euthanasie. Au contraire, aujourd'hui, il y a des gens qui ont peut-être soit sûrement des sédations, alors qu'on ne connaît pas vraiment leur volonté. Avec une loi, il y aura 2 médecins qui vérifieront. Un premier médecin qui est peut-être votre médecin de famille, alors on peut penser qu'il pourrait être influencé par la famille, qu'il connaît depuis longtemps, etc. Et c'est pour ça qu'on met un deuxième médecin, qui est un médecin qui ne vous connaît pas et qui va vérifier si c'est votre volonté. Et c'est ça qui est important en l'espèce, puisque la première des conditions, c'est la volonté de la personne. Et on peut penser quand même qu'avec 2 médecins qui vérifient, eh bien on en sera sûr, alors qu'aujourd'hui, dans une sédation profonde et continue, eh bien, quand c'est décidé, c'est le médecin, au final, contrairement à ce qu'on nous dit, on nous dit oui, c'est collégial, etc. Enfin, celui qui signe à la fin, qui décide, c'est le médecin. Là, on aura bien plus de garanties, alors qu'aujourd'hui, la sédation, elle aboutit quand même à la mort, sans donner quand même les conditions de garantie d'être sûr que la personne souhaite vraiment partir. Donc, je vous dis, ces lois-là, c'est des lois qui donnent des garanties. Je le dis, il faut qu'on arrête d'avoir peur dans notre pays des lois, parce que certes, on en fait trop sur certains sujets, mais des lois fondamentales comme celle-là, c'est d'abord des lois qui sont protectrices de votre volonté, et je le redis pour ceux qui ont des convictions religieuses, qui seront protectrices de vos convictions et qui ne vous obligeront à rien, et c'est pour ça qu'il faut y arriver, et rapidement.
Alors, plusieurs pays comme la Suisse et la Belgique ont mis en place des législations sur l'euthanasie et le suicide assisté. Quel est le pays qui devrait, selon vous, inspirer la loi qui serait adoptée en France?
Écoutez, le président de la République a dit que le modèle belge était, il a dit ça pendant la campagne, était un modèle qui pouvait l'intéresser. Je pense que voilà, il y a les Pays-Bas, il y a la Belgique, il y a l'Espagne, il y a l'Autriche. Enfin, on est entouré maintenant de pays qui ont des lois, et dont certains pays en ont depuis plus de 20 ans, c'est le cas notamment des Pays-Bas et de la Belgique. Copions ces systèmes, vous savez, on n'a pas besoin d'inventer un système à la française. Ils ont des lois qui permettent d'éviter de toute dérive et qui permettent de respecter chacun, et je dis encore de respecter les consciences de toutes et tous, et je pense que l'exemple de la Belgique, même s'il faudrait y ajouter le suicide assisté qui n'y est pas forcément, est un bon exemple, surtout que je vous rappelle, quand les Belges ont voté une loi sur la fin de vie, ils en ont voté trois. Et moi, j'aimerais qu'on fasse la même chose en France. Ils ont voté une loi sur les soins palliatifs, ils ont voté une loi sur l'euthanasie et le suicide assisté, et une loi sur les droits des patients. Et je pense que c'est ce qu'on doit faire pour que chacun se sente totalement respecté et qu'on ait enfin une législation qui soit digne.
Il y a un an, un plan national de développement des soins palliatifs était présenté par Olivier Véran, qui était alors ministre de la Santé. Le gouvernement promettait un maillage territorial plus serré des structures de soins et une meilleure diffusion de la culture palliative. Le compte n'y est toujours pas ?
Le compte n'y est pas, et puis en plus, quelle hypocrisie. Ils l'ont fait à un moment où il y avait évidemment encore un débat sur la question de la fin de vie. Pendant 2 ans, il n'y a pas eu de plan de développement de soins palliatifs. Vous vous rendez compte, pendant 2 ans, au moment où on en avait le plus besoin, notamment pendant la période de la Covid, et ceux qui, comme moi, ont perdu des êtres, moi j'ai perdu ma mère, qui évidemment n'a pas eu de soins palliatifs pendant la période de la Covid. Je pense que les moyens ne sont pas là. Vous savez, des plans de moins de 200 millions d'euros, c'est pas avec ça qu'on va permettre l'accès universel aux soins palliatifs. C'est pourquoi moi je souhaite qu'au moment où on va voter une loi sur l'euthanasie, il n'y ait pas simplement comme les lois Leonetti qui disent chacun a droit aux soins palliatifs. Tout ça c'est bien gentil, c'est un droit formel, c'est pas un droit réel. Il faut qu'il y ait à côté un plan. Je pense qu'il faut être raisonnable, on va pas faire ça en un an, mais en tout cas sur 4 ans ou 5 ans, qui permettra évidemment d'arriver à l'accès universel aux soins palliatifs. Vous savez, en Belgique, aux Pays-Bas, même en Angleterre, qui a un très mauvais système de santé, il y a des soins palliatifs qui sont disponibles pour la plupart des gens en fin de vie. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas bénéficier. On n'est pas un pays plus pauvre que la Belgique, que les Pays-Bas ou que l'Angleterre.
Dernière question, très rapidement, vous avez dit que les planètes étaient alignées. Est-ce que le chef de l'État peut vouloir s'inscrire dans l'histoire en étant celui qui légalise l'euthanasie ?
Écoutez, moi je lui ai dit, hein, et je lui ai même écrit, qu'il pourrait être d'ailleurs doublement, parce que sur un autre sujet, il pourrait être aussi le président d'une France sans sida, c'est ce que je lui ai écrit, et il pourrait être aussi le président, oui, de celui qui va donner cette ultime liberté et qui va donner cette dignité à chacune et à chacun de pouvoir choisir les conditions de notre fin de vie. Et je pense que, bien sûr, ce serait quelque chose d'important, ce serait une réforme de société forte, et il en serait bien sûr l'un des acteurs, mais aussi avec un Parlement, avec les associations et avec toutes celles et tous ceux qui, quand même, depuis des années et des années, se sont battus pour qu'on ait enfin, dans notre pays, une considération pour les personnes qui sont en fin de vie.
Merci Jean-Luc Romero-Michel. Je rappelle que vous êtes adjoint à la maire de Paris et président d'honneur de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. Bonsoir.
Bonsoir.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.